Eh bien, même si j'ai oublié ce matin d'allumer les quatre bougies de l'Avent, il n'en reste pas moins que nous terminons ce matin notre série de l'Avent. Et je vous invite à lire dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 11. Alors, c'est dans les Bibles bleues, c'est à la page 788, si vous souhaitez utiliser les Bibles sur les bancs. Page 788, le prophète Ésaïe, chapitre 11. Les versets 1 à 10. Puis un rameau poussera de la souche d'Isaïe, un rejeton de ses racines portera du fruit. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence, n'adressera pas de reproches sur la base d'un oui-dire. Au contraire, il jugera les faibles avec justice et corrigera les malheureux de la terre avec droiture. Il frappera la terre par sa parole comme par un coup de bâton, et par le souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera comme une ceinture autour de sa taille, et la fidélité comme une ceinture sur ses hanches. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le jeune lion et le bétail qu'on engraisse vivront ensemble, et un jeune garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même enclos, et le lion mangera de la paille, comme le bœuf. Le nouveau-né s'amusera sur le nid de la vipère, et le petit enfant mettra sa main dans la grotte du cobra. On ne commettra ni mal, ni destruction sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Ce jour-là, la racine d'Isaïe, dressée comme un étendard pour les peuples, sera recherché par les nations et son lieu de résidence sera glorieux. Amen. Je vais vous parler d'un pays. Un pays, sur le papier, prospère et stable, avec une capitale prestigieuse. Un pays connu pour bien aimer faire les choses à sa manière, pas comme les autres. Un pays dirigé par un chef jeune et ambitieux, plutôt bien vu à l'étranger, plutôt impopulaire dans son pays. Un pays fort en apparence, mais miné par les inégalités, avec le sentiment que les richesses profitent surtout à une élite privilégiée, tandis que le reste du peuple se sent méprisé. De quel pays est-ce que je parle ? Alors c'est évident, bien sûr, vous l'avez tous deviné, je parle de la Judée au 8e siècle avant Jésus-Christ, sous le roi Akaz. Et c'est dans ce contexte que le prophète Ésaïe proclame la parole que Dieu lui a confiée. Et dans cette section de ce grand livre de l'Ancien Testament, il y a comme un va-et-vient. Un va-et-vient entre, d'un côté, pas mal de références à l'actualité chargée de l'époque, injustice sociale, corruption, menace de guerre. Et de l'autre côté, il y a comme des aperçus, comme des flashs d'un avenir radicalement différent, marqué par une intervention décisive de Dieu dans l'histoire du pays et même, comme les textes le suggèrent, dans l'histoire du monde entier. Eh bien, le texte ce matin fait partie de ces flashs. Il évoque un avenir qui tranche totalement avec l'actualité triste et cynique du temps du prophète Ésaïe. Au cœur de ce texte, comme dans celui du chapitre 9 que nous avons vu la semaine dernière, il y a un personnage encore mystérieux, un roi futur, héritier du trône d'Israël, mais dont le règne concernera le monde entier. Et je vous propose de voir cela d'un peu plus près en suivant la logique du texte, en deux temps. D'abord, l'espérance d'un roi de justice au verset 1 à 5, et ensuite l'espérance d'une ère de paix au verset 6 à 10. D'abord donc l'espérance d'un roi de justice. Je relis le verset 1. « Puis un rameau poussera de la souche d'Isaïe, un rejeton de ses racines portera du fruit. » Alors quand on a grandi en allant à l'église, comme c'était mon cas, on a entendu cette phrase dans le contexte de Noël à plusieurs reprises. Et je me rappelle notamment, quand j'étais petit, en grandissant, nous chantions de temps en temps à l'église le cantique d'un arbre séculaire qui reprend ce verset, cantique qui est dans le recueil « À toi la gloire ». Et je cite le début de ce cantique « D'un arbre séculaire du vieux tronc d'Isaïe, durant l'hiver austère, un vieux rameau jaillit. Alors je peux vous dire que quand j'étais petit, c'était clair comme de l'eau de roche tout ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de vieux tronc? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de souche d'Isaïe ou de Jessé selon les traductions? En réalité, il s'agit de langage poétique pour décrire tout simplement la promesse d'un roi. Un roi issu de la lignée du roi David. David étant lui-même le fils d'Isaïe, de Jessé. La souche d'Isaïe, donc, c'est une manière imagée de renvoyer aux racines, à cette lignée royale dont est issu David. Alors si on pousse un peu plus loin, ce mot souche, il peut laisser entendre que l'arbre a été coupé. Et ça décrit bien la situation. Au temps du roi Akaz, ce qui avait été le royaume d'Israël, au temps de David, a été coupé en deux. Et le roi du moment, Akaz, était un homme idolâtre et profondément immoral. Et donc c'est comme s'il ne reste qu'une souche, une vieille souche, de cette famille d'Isaïe, de David, mais de cette souche, verset 1, un rameau va pousser. Un rejeton de ses racines portera du fruit. En d'autres termes, un nouveau roi issu de cette lignée va apparaître. Alors voyons ce qui nous est dit à son propos. Verset 2, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Autrement dit, ce roi sera rempli de la présence de Dieu et agira par la puissance de Dieu. Mais la qualité qui ressort le plus fortement ici de la description de ce roi, c'est la justice. On voit cela dans la deuxième partie du verset 3. Il ne jugera pas sur l'apparence. Il n'adressera pas de reproches sur la base d'un oui-dire. Ce roi dira donc et fera ce qui est juste. Et cette aspiration à la justice n'a rien perdu, évidemment, de sa pertinence à notre époque. On le voit bien jusque dans les débats actuels. La justice, l'équité restent au cœur des débats. Et tous les hommes le ressentent finalement. Un monde meilleur, c'est un monde plus juste. Un monde où toutes les choses sont comme elles devraient être. Et rien que cette façon de parler, ça devrait être comme ceci, ça devrait être comme cela. Ça montre notre profonde aspiration à une justice qui nous dépasse, comme un ordre qui est au-dessus de nous. Or, Isaïe promet précisément dans ce texte cette justice qui nous dépasse, la venue d'un souverain juste et qui se soucie réellement de ce qui est juste pour chacun. Donc ce n'est pas juste une justice distante et abstraite, mais une justice qui s'applique à la vie de chacun. Verset 4, il jugera les faibles avec justice et corrigera les malheureux de la terre avec droiture. Le roi annoncé n'accablera pas ceux qui souffrent donc, mais au contraire agira avec justice envers eux. Et même lorsqu'il y aura une discipline à exercer, elle le sera avec droiture, de manière équitable et saine. On sait que la justice n'est pas l'absence de règles ou de limites. Tous ceux qui ont un peu d'expérience avec les enfants peuvent en témoigner. Les enfants désirent des limites, en fait, et ils en ont profondément besoin. Or, nous vivons dans un monde où règne la rébellion contre Dieu, le refus des limites que Dieu pose, la révolte d'êtres humains qui, comme des enfants gâtés, ont voulu se défaire de l'autorité du Créateur et en subissent les terribles conséquences jour après jour, ce que la Bible appelle le péché. Et pourtant, il n'y a rien de plus désirable pour l'homme que de retrouver l'autorité juste qui vient de notre Créateur. Et c'est là que ce texte vient rejoindre nos questions les plus essentielles. Parce que le roi promis ici, il vient précisément pour rétablir l'autorité de Dieu. Plus saisissant encore, c'est un descendant de David, nous dit le texte, mais mystérieusement, il est décrit ici avec des attributs divins, comme on le voit à la fin du verset 4 et au verset 5. Il frappera la terre par sa parole comme par un coup de bâton, et par le souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera comme une ceinture autour de sa taille, et la fidélité comme une ceinture sur ses hanches. Quand l'Ancien Testament utilise ce type de langage, c'est de Dieu qu'il parle. Un Dieu dont la parole change la réalité. Un Dieu qui vient délivrer ceux qui en appellent à lui, mais qui exerce aussi le jugement. Un Dieu qui est juge de ce qui est bien et de ce qui est mal. On est bien ici face au même personnage mystérieux qu'on a vu au chapitre 9. Ce roi divin, celui qu'on appelle merveilleux conseiller, Dieu puissant, roi éternel, prince de la paix. Maintenant, en lisant ce portrait, on peut être tenté de réagir avec cynisme. Nous vivons à une époque cynique. Et quand on lit le portrait d'un souverain parfaitement juste, venu accomplir la volonté de Dieu, ça peut faire ricaner. L'époque d'Ésaïe, on le voit en lisant le livre d'Ésaïe, était assez cynique, elle aussi. On voit ça également dans le livre des Rois, des Chroniques. La foi des pères, la foi dans le Dieu d'Israël, semblait bien loin. Pourtant, ne devons-nous pas reconnaître, malgré le cynisme, ne devons-nous pas reconnaître au fond de nous un profond désir de justice ? Si ce n'était pas le cas, alors pourquoi se mobiliser pour quoi que ce soit ? Pourquoi s'indigner ? Pourquoi souhaiter que les choses changent ? Et directement lié à ce désir de justice, nous aspirons à une autorité qui s'impose à tous les hommes et qui impose la justice. Sinon, encore une fois, pourquoi revendiquer quoi que ce soit ? Si nous n'aspirons pas à une autorité qui applique la justice. Ainsi, le portrait du roi divin qui nous est donné ici n'est pas naïf, mais correspond plutôt à notre besoin de l'autorité de Dieu dans nos vies et dans le monde. Maintenant, la question se pose évidemment, est-ce que cette prophétie d'Ésaïe est vraie ? Est-ce que l'espérance exprimée ici peut rencontrer notre réalité ? On va voir ce qu'en dit la suite du texte où Ésaïe déplace le curseur pour parler non plus du roi lui-même en premier lieu, mais de la nouvelle ère que ce roi va inaugurer. C'est notre deuxième point, l'espérance d'une ère de paix. Alors, ces derniers temps, et même jusqu'à dimanche dernier avec Paul Harrison, on a beaucoup parlé cette année d'un point de vue général de Martin Luther King, puisqu'on commémorait le 50e anniversaire de sa mort. Et on a eu, vous le savez, une soirée du 72 à la mairie à ce sujet également. En pensant à Martin Luther King, ce qui est resté sans doute le plus gravé dans les mémoires, c'est son célèbre discours. « I have a dream », je fais un rêve. Et notamment cette fameuse section vers la fin du discours. « Je rêve qu'un jour, sur les rouges collines de Géorgie, les fils des anciens esclaves et les fils des anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. » Je rêve qu'un jour l'État du Mississippi lui-même, tout brûlant des feux de l'oppression, se transformera en oasis de liberté et de justice. Je rêve que mes quatre petits-enfants vivront un jour dans un pays où on ne les jugera pas à la couleur de leur peau, mais à la nature de leur caractère, etc. Alors même si ce discours est axé particulièrement sur la question du racisme, il y a des échos plus universels, des échos bibliques en fait. On le sait, Martin Luther King était inspiré évidemment par la Bible. Plusieurs fois, les prophètes d'Israël font un rêve, eux aussi, le rêve d'un monde de justice. Et dans la Bible, en fait, c'est plus qu'un rêve, c'est l'annonce d'une réalité qui viendra un jour. Une nouvelle ère inaugurée par le roi sauveur, le libérateur, le Messie, venu de la part de Dieu. Et c'est cette nouvelle ère qui nous est décrite au verset 6 à 9. Et là encore, Ésaïe utilise des images. Versets 6 et 7. Le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le jeune lion et le bétail qu'on engraisse vivront ensemble et un jeune garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même enclos et le lion mangera de la paille comme le bœuf. Alors ce sont des images, bien sûr. Le propos d'Ésaïe n'est pas, ou en tout cas pas en premier lieu, de parler des relations entre les animaux. Mais ces images sont employées pour décrire un monde de paix, un monde où les conflits a priori irréconciliables, n'auront plus lieu d'être. Un monde où il n'y aura plus de danger, l'agneau n'aura plus à craindre le loup, ni le chevreau la panthère. Ceux qui semblaient voués à ne jamais s'entendre seront réconciliés. On peut même aller un peu plus loin et noter que dans ce texte, il y a un écho du début de la Genèse. Un monde harmonieux où la mort n'a pas sa place, les prédateurs broutent tranquillement à côté de leurs anciennes proies. La création est apaisée. Et cette idée est renforcée par la référence au serpent, verset 28. On a vu il y a 3 semaines avec Paul Bourdois que le serpent dans la Genèse, c'est le symbole du diable, du mal. Mais ici, le serpent ne représente plus de danger. Le nouveau-né peut s'amuser sur le nid de la vipère. J'imagine mon fils de 6 mois, Ruben, s'amuser autour de serpents. On voit qu'on n'y est pas encore. L'image est forte. Le mal ne menace plus. En bref, la nouvelle ère inaugurée par le Messie rétablira la paix originelle dans la création, cette situation de paix et d'abondance à laquelle nous aspirons tous au fond de nous. Alors vous me direz peut-être que la Bible n'est pas la seule à rêver de paix. On va citer plein d'exemples, je vais en citer un bien connu. John Lennon dans sa célèbre chanson Imagine rêve aussi d'un monde en paix. Mais dans la chanson de Lennon, on n'apprend jamais comment cette paix va se réaliser. On se dit « Ah, ça serait bien !» Imagine ! On espère que les gens changeront et arrêteront de faire le mal. Mais si nous avons les plus grandes difficultés à arrêter de faire le mal dans nos propres vies, dans nos relations, dans nos pensées et actes, même à petite échelle, alors comment imaginer que le monde à grande échelle soit guéri du mal ? La Bible, elle, explique comment un nouveau monde serait possible. Et on en a un indice fort au verset 9. La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. La seule paix véritable, la seule paix qui puisse changer vraiment le cœur de l'homme, c'est une paix qui vient de la connaissance du Créateur. Pourquoi ? Parce que vivre avec lui, par lui, pour lui, c'est précisément ce pourquoi nous avons été faits. C'est pour cela que nous avons été créés. Au fond, c'est ce que nous désirons le plus, retrouver le sens profond de notre identité, de notre existence, rentrer à la maison, retrouver notre chez-soi avec Dieu. Alors hier, quelqu'un m'a fait remarquer que depuis quelques semaines, je citais souvent C.S. Lewis, c'est peut-être vrai. Et bien, je vais le faire à nouveau ce matin, je vais rappeler cette citation bien connue de l'auteur anglais C.S. Lewis. « Si je trouve en moi un désir qu'aucune expérience dans ce monde ne peut satisfaire, l'explication la plus probable est que j'ai été fait pour un autre monde. Si je trouve en moi un désir qu'aucune expérience dans ce monde ne peut satisfaire, l'explication la plus probable est que j'ai été fait pour un autre monde. Notre plus profond besoin, c'est de connaître Dieu. Un Dieu qui était devenu inconnu parce que nous avons voulu le remplacer par notre propre autorité. Mais un Dieu qui a voulu se réconcilier avec nous. Et c'est le message central de la Bible. Alors la question se pose naturellement, est-ce que nous connaissons aujourd'hui cette ère de paix que décrivent ces lignes ? Quand on regarde les infos et quand on regarde nos propres vies, ça semble bien loin. Alors cette ère de paix, c'est pour aujourd'hui ou pour demain ? Et la réponse du Nouveau Testament à cette question, c'est les deux. Nous attendons encore le monde nouveau. Le Nouveau Testament en parle à plusieurs reprises, à bien des reprises. Mais pour nous qui sommes chrétiens, nous croyons que Dieu a posé l'acte décisif et fondateur de ce nouveau monde par la mort sur la croix et la résurrection de Jésus-Christ. Nous croyons que Jésus est celui que Dieu a envoyé 7 siècles après ce texte d'Ésaïe, il a fallu patienter, pour accomplir cette promesse. Un roi régnant avec une autorité parfaitement juste. Un roi qui nous permet de connaître Dieu, d'être réconcilié avec lui. Et qui a fait cela comme Ésaïe va lui-même l'annoncer plus loin dans son livre, chapitre 53 en particulier, en offrant sa vie en sacrifice pour les péchés des hommes. Un roi qui, en attendant de transformer définitivement la création, eh bien, lance aujourd'hui un appel à tous les hommes et toutes les femmes à venir à lui pour connaître la vie véritable. La paix véritable. Et le verset 10 nous indique que ce roi futur d'Israël, de la lignée de David, il sera recherché par les nations. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Dieu patiente encore avant d'établir la nouvelle terre parce qu'il appelle précisément des hommes et des femmes de tous les peuples à venir encore et encore et encore le rencontrer. Comme Étienne nous l'a rappelé plus tôt, c'est encore aujourd'hui un jour de grâce. Il appelle des hommes et des femmes de tous les peuples à le rencontrer par la foi en Jésus-Christ. Et chaque jour, loin des unes de nos médias, des centaines, des milliers de femmes et d'hommes, d'enfants, se tournent vers lui. Et ces personnes forment un peuple nouveau, l'Église, appelée à anticiper dès aujourd'hui cette nouvelle ère. Si nous avons confié nos vies à Jésus, eh bien nous faisons partie. Faisons partie de ce peuple nouveau, et c'est ce que nous avons rappelé en prenant le repas du Seigneur tout à l'heure. Et par conséquent, nous sommes appelés à vivre aujourd'hui même cette réalité nouvelle qui est décrite dans ce texte. Une réalité où l'autorité de Dieu est pleinement acceptée et reconnue, et où le mal, les conflits et l'amertume laissent place à la paix et à l'espérance. Parce que l'œuvre de réconciliation de Dieu est au centre de notre vie commune. Nous sommes appelés à vivre cela entre nous. Parce que nous sommes comme une ambassade du royaume de Dieu, de ce nouveau monde qui viendra un jour et qui sera visible aux yeux de tous. Pour conclure, je m'adresse d'abord à ceux qui, parmi nous, sont déjà chrétiens. C'est certainement la majorité parmi nous. À l'occasion de ce Noël, je nous encourage à nous poser deux questions. Je me les pose à moi-même, bien évidemment. D'abord, sommes-nous portés par cette paix que Dieu promet au monde ? Sommes-nous portés par cette paix ? Dans notre Église, mais aussi dans nos familles, avec nos amis, est-ce que nous vivons la paix, la réconciliation, le pardon, la compassion, la grâce ? Cette qualité de Dieu qui veut toujours voir le meilleur en l'autre. Et si nous craignons que ce ne soit pas le cas, quelle pourrait être une première étape pour changer de cap ? Peut-être que une possibilité, par exemple, serait de continuer à méditer ce texte pendant les fêtes et demander à Dieu de transformer nos relations pour qu'elles reflètent mieux cette nouvelle réalité. Deuxième question, quelles sont nos valeurs ? Autrement dit, qu'est-ce qui nous donne envie de vivre demain ? Est-ce que c'est, comme souvent pour moi, je l'avoue, un certain petit confort de vie, des gens qu'on aime autour de soi, des projets de la vie de tous les jours qui me font plaisir ? Ces choses ne sont pas mauvaises et elles peuvent même être très bonnes. Mais si c'est ça qui est le vent dans nos voiles, si c'est ça qui nous donne envie de vivre, eh bien ça signifie qu'en fait c'est ça notre espérance. Or, on le voit, ce texte nous invite à placer notre espérance non pas en nous-mêmes et nos circonstances, mais plutôt en Dieu lui-même, dans son autorité et dans la paix qu'il offre. Il nous invite à prier comme les chrétiens de tous les temps, que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Autrement dit, que ton autorité soit reconnue partout. Ça devrait être la profonde aspiration de nos cœurs. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est déjà au ciel. Si quotidiennement nous regardions le monde et les gens autour de nous et nous-mêmes en nous disant « j'aimerais tellement voir l'autorité de Dieu et l'amour de Dieu vécu dans cette situation, dans ma vie, dans la vie de cette personne », eh bien je crois que ça donnera un souffle nouveau à nos relations, à notre propre manière de nous comporter avec les autres. Et là, nous commencerons à vivre dans l'espérance. Pas une espérance abstraite, mais une espérance bien concrète. Parce que Dieu fait toujours dans le concret. Et la preuve, c'est qu'en venant dans notre humanité, il a fait dans l'absolument concret. Et il nous invite à vivre cette espérance dans la vie de tous les jours. Pas dans une espèce de zone spirituelle qui serait déconnectée de notre vie tous les jours, mais dans la vie de tous les jours, dans nos circonstances, dans nos joies et nos peines. Maintenant, je m'adresse à ceux qui ne vivent pas encore cette relation vivante avec Dieu par Jésus-Christ, ou peut-être qui ne sont pas sûrs de la vivre. Eh bien, que Noël soit pour vous l'occasion de répondre à son appel. Dieu n'attend pas que vous trouviez la force en vous d'aller le chercher. C'est lui qui est venu vers vous, vers nous, en venant lui-même dans notre humanité il y a 2 millénaires. Et si vous aviez encore un doute, sachez qu'aujourd'hui même, il vous appelle. Vous êtes là, vous avez entendu l'appel, non pas le mien, mais celui de la parole. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas entendu. Aujourd'hui, il vous appelle. Venez nous en parler, si vous voulez en savoir plus, à moi-même, à Paul, qui est dans la salle du bas, à Étienne, à d'autres responsables de l'Église. Parlez-en même avec vos amis chrétiens, peut-être, avec qui vous êtes venus. Mais ne tardez plus à lui donner votre vie. Amen. Et joyeux Noël.